un des conseils que j'ai retenu de toutes les rencontres faites avec les expatpreneurs qui ont témoigné sur le podcast, savoir s'entourer. C'est pourquoi je vous invite à jeter un œil à nos packs d'accompagnement pour vos business nomades. Que vous soyez en idéation, au tout début de lancement de votre projet ou à un stade bien plus avancé, nos experts sont là pour vous aider à développer votre business d'expatpreneur et à le faire décoller. Retrouvez toutes les informations sur le site ou sur les réseaux sociaux. Et maintenant, place à notre nouvelle invitée pour ce nouvel épisode.
Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'expatriation reste une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Adeline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie, des témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musettes, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde.
Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode sur notre podcast de The Musette qui met en avant les femmes expatriées entrepreneurs. Aujourd'hui, je donne la parole à Justine Demp, expat aux Émirats Arabes Unis et fondatrice de Shake Your Plant. Bienvenue Justine.
Merci Adeline. Bonjour à tous.
Écoute Justine, je suis très contente de t'accueillir sur le podcast parce que tu as un projet qui n'est pas commun, je trouve, surtout pour une expatpreneur. Et donc voilà, c'est pourquoi je tenais à t'avoir sur le podcast. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, donner ton âge, si tu es OK, où tu vis exactement, où tu as vécu, parce que je sais que tu n'as pas vécu qu'aux Émirats, et ton background pro aussi.
Oui, bien sûr. Bah déjà, je suis absolument ravie de participer à ce podcast. Donc, merci de m'accueillir. Effectivement, tu parles d'expat, d'expatpreneur. J'ai été expat toute ma vie professionnelle. Donc, j'ai un parcours, je dirais, classique en termes de parcours scolaire. J'ai fait Cagne, Hippocagne à Paris. Et ensuite, je suis partie m'expatrier au Canada pour faire une école de commerce. Et de là, j'ai vécu en Finlande en échange universitaire et je suis partie en Égypte pour faire en fait un stage dans ce qui devait être le Etsy du Moyen-Orient qui finalement en fait c'est pas très très bien passé, mais par contre je suis tombée absolument amoureuse de l'Égypte et donc j'ai vécu au Caire, j'ai fait un break dans mes études et donc j'ai monté ma première boîte au Caire qui était en fait autour justement de l'expatriation encore, puisqu'en fait on aidait les compagnies françaises à s'implanter en Égypte. Pas seulement que les compagnies d'ailleurs, on s'occupait aussi de leurs expatriés, donc on avait tout un pan B2B et un pan B2C pour vraiment proposer en fait un service complet. Et ensuite, après la révolution égyptienne, je dirais durant la révolution égyptienne plutôt, donc je suis arrivée à Dubaï. Là, j'ai travaillé pour une compagnie américaine qui n'est pas une start-up, qui était une grosse multinationale qui s'appelle Getty Images. Et à côté, j'avais toujours un projet entrepreneurial autour de la nutrition, quelque chose dont je suis très passionnée. Et donc voilà, j'ai lancé Anka en 2017. Et Anka était un projet de création de snacks santé qui est fabriqué ici à Dubaï, ce qui n'existait pas à l'époque. Et j'ai été rachetée par l'un de mes distributeurs fin 2019, donc juste avant le Covid. Et la marque maintenant s'appelle Eat Better Food. Et donc, j'ai eu tout le Covid pour réfléchir à mon prochain projet.
Je vais revenir sur tes expériences d'expatriation, parce que Finlande, Égypte, Canada, c'est absolument pas la même chose. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ces différents pays, que ça soit au niveau qualité de vie, au niveau entrepreneuriat ou au niveau salariat? Voilà, qu'est-ce que tu as le plus aimé chez les uns les autres ou le moins aimé?
Alors, j'étais quand même étudiante quand j'étais au Canada, quand j'étais en Finlande. Donc, même si je travaillais toujours sur des business plans avec mes copains, mes copines, etc., je ne peux pas dire que j'étais vraiment entrepreneur à ce moment-là. Ma vraie première expérience d'entrepreneur a été au Caire. Donc là, ce qui m'a tout de suite séduit, c'est vrai que c'était la flexibilité. De pouvoir, à l'époque, c'était un marché qui était en plein boom. Donc, c'était de voir toutes ces compagnies françaises qui avaient envie de s'y installer. Et donc, on a vraiment surfé, en fait, sur une vague, sur une tendance. Mon expérience entrepreneuriale a été à l'origine sur un besoin de marché et pas forcément sur une analyse. En fait, c'était « Ok, je vois qu'il y a cette opportunité, hop, on y va. » Et ça n'a pas été quelque chose en fait de stratégique comme j'ai pu lancer d'autres projets, par exemple, à Dubaï. Donc ça, c'était je dirais, une expérience qui m'a, séduit. C'était vraiment ce boom, cette opportunité, la rapidité, la simplicité en fait de créer une entreprise dans un marché où il y avait tout à faire.
C'est étonnant parce que tu parles de l'Égypte et on ne pense pas à ça. On ne dit pas que l'Égypte, elle est hyper dynamique, etc.
Ouais, non, c'est vrai. Mais alors, je parle aussi d'une époque qui... j'ai l'air très, très vieille, mais je ne suis pas si vieille que ça. D'ailleurs, je n'ai jamais dit mon âge. J'ai 37 ans. C'était une époque aussi différente. En fait, la révolution a changé pas mal, en fait. Je pense la dynamique business et surtout la dynamique business autour des entrepreneurs étrangers. Je pense qu'il y a eu un vrai retour sur le nationalisme, sur OK, on veut vraiment avoir des choses qui viennent de nous et pas forcément qui viennent d'expatriés. Donc, je pense que c'était aussi une période très particulière sur laquelle, encore une fois, j'ai pu surfer pendant ces quelques années.
Et tu as ressenti cette dynamique quand tu étais en Finlande, même si tu étais du côté du salariat, mais est-ce que tu as ressenti cette dynamique aussi ou c'est pas pareil ?
Non, j'ai pas ressenti la même chose quand j'étais en Finlande. Encore une fois, c'était la croissance de l'Égypte à l'époque était hyper importante. Tu voyais toutes les boîtes, que ce soit Sanofi, BCG, etc., s'y implanter. Donc, il y avait vraiment cette vague de c'est la nouvelle Chine, en fait. C'est une porte sur l'Afrique, c'est une porte sur le Moyen-Orient. Donc, il y avait vraiment ce moment-là. Je te parle de 2009 à 2011. Encore une fois, je pense que c'est un pays encore très, très dynamique. Alors, je suis pas maintenant exposée, en fait, en termes de business sur l'Égypte. Donc, je suis sûre qu'il y aura des experts qui en sauront plus que moi. Mais je pense que ça a changé.
Qu'est-ce qui t'a amené à venir à Dubaï ? Est-ce que c'est toi avec ton idée de projet ou avec ton mari, tu l'as suivi ?
Non, alors je n'étais pas mariée, je suis venue toute seule. Et en fait, ce qui m'a poussée à venir à Dubaï, c'est vraiment la révolution égyptienne. Donc, j'étais en train de revendre mes parts en fait, à mon business partner en Égypte. Hein, et voilà, je dirais que la révolution égyptienne a accéléré un peu, accéléré beaucoup ce processus. Et c'était en fait à l'époque le deuxième pôle important dans la région, c'était Dubaï. Quand tu étais en Égypte, c'était OK, bon, l'Égypte est dynamique, mais Dubaï l'est encore plus. Et c'était un peu, je dirais, en termes de carrière, entre guillemets, le move naturel à faire. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai suivi absolument personne. Je suis arrivée avec, d'ailleurs, pas grand-chose en main parce que je suis partie vraiment au milieu de la révolution. Donc voilà, je suis arrivée un petit peu avec mon passeport à la main et j'ai trouvé donc mon premier emploi chez Getty Images qui avait en fait identifié aussi le marché de Dubaï comme une porte sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique, hein, et donc chercher en fait à s'établir, un bureau ici.
Et je me demandais, tu sais, parce qu'on vit toutes les deux à Dubaï, mais il y a des certains clichés sur la ville. Est-ce que toi, tu dis facilement où tu vis, où tu restes vague, ou tu assumes avec fierté, je dirais, et c'est pas un souci?
Non, moi c'est pas un souci. C'est une ville que j'ai choisie. C'est une vie que j'ai choisie. Encore une fois, dans mon cas, j'ai suivi personne en fait, hein, donc c'est pas une expatriation que je subis entre guillemets. Je trouve qu'il y a encore une fois et je passe énormément de temps aussi en Europe maintenant parce que j'ai lancé mon nouveau projet aussi à Londres et j'apprécie énormément le cadre de vie de Dubaï. Je trouve qu'il y a encore une fois dans le business un dynamisme qui est imbattable. Il se passe toujours des choses. Il y a énormément de trafic en termes de personnes qui passent par Dubaï, je trouve que c'est un marché très, très, très dynamique qui va très, très vite. Et ça, j'adore. Et après, je pense que oui, toutes les images bling-bling de Dubaï qui sont notamment relayées par tous les influenceurs français, voilà, je pense qu'on le sait tous que c'est pas la vie de la majorité des expats. En fait, on choisit la vie qu'on a envie d'avoir à Dubaï. Je trouve qu'il n'y a pas que des malls et des yachts, il y a aussi plein d'activités à l'extérieur, il y a du surf, il y a des randonnées. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on voit pas forcément quand on est en dehors de Dubaï, mais aussi une vie, je dirais, plus simple et plus outdoor, le lifestyle qui est montré en fait sur les social media. Mais en tout cas, d'un point de vue business, moi je trouve que c'est imbattable et j'aimerais être nulle part ailleurs qu'à Dubaï en ce moment.
Donc, tu as lancé Shake Your Plant.
Est-ce que tu peux nous dire donc ce que c'est, qu'est-ce qui se cache derrière et pourquoi ce nom justement?
Alors, Shake Your Plan, en fait, c'est mon troisième business. Et donc moi, comme tu disais, je suis entrepreneur depuis 15 ans. Et en fait, ce qui se cache derrière Shake Your Plan, c'est en fait un petit peu, je dirais, tout ce que j'ai appris de mes projets précédents. Donc, je voulais créer quelque chose qui soit plus en lien avec mon style de vie, c'est-à-dire plus éco-responsable dans la production, notamment du produit, et qui soit aussi que j'ai l'opportunité en fait de scale, de d'étendre mon projet worldwide. Donc avoir un produit qui soit facilement transportable avec une, encore une fois, du franglais, mais avec une shelf life qui soit suffisamment étendue pour me permettre justement de pouvoir l'envoyer à travers le monde entier. Donc c'était vraiment ce que je cherchais à faire. Et donc pendant Covid, j'ai vraiment exploré différents types de produits. Et l'idée était encore une fois de vraiment démocratiser le bien manger et tout autour du plant-based, donc quelque chose de très naturel. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, à travers tous les territoires, toutes les géographies, à travers le monde et à travers toutes les générations, on a des remèdes naturels, que ce soit la camomille, que ce soit le manuka, le miel manuka, que ce soit le thé. Voilà, on a dans chaque culture, il y a l'utilisation de plantes comme remèdes traditionnels. Et en fait, l'idée de CIP, c'était vraiment de prendre ces remèdes traditionnels, de les transformer en une boisson qui soit facilement transportable, encore une fois, donc sous forme de sachets, et que le consommateur moderne puisse en fait emmener partout avec lui et ajouter simplement dans sa bouteille d'eau partout où il se trouvera.
Alors, pour utiliser les petits sachets SIP, je le recommande parce que moi, ils sont partis avec moi en vacances cet été. C'était très pratique et ça a été ma boisson de tout cet été. C'était très chouette. Donc, vraiment, et je préviens, elle ne m'a pas donné des échantillons, quoi que ce soit. J'ai acheté. Donc voilà. Ta base de plantes, c'est le kombucha. Pourquoi cette base qui, au final, n'est pas... Moi, je le connaissais, le kombucha, mais je pense que ce n'est pas ultra connu non plus. Donc, pourquoi avec cet ingrédient?
Alors en fait voilà, comme je disais, enfin la vision de la compagnie, c'est vraiment d'avoir de surfer sur un mode de vie sain et une démarche préventive, donc d'intégrer des choses dans l'eau qu'on boit chaque jour qui soit autour de ce mode de vie. Le premier, donc en fait on appelle ça functional drink en anglais, et donc la première fonction qu'on a identifiée comme quelque chose d'universel, c'est le gut, donc le ventre en fait. Et il faut savoir qu'en fait le macrobiote, donc c'est l'ensemble de tous les micro-organismes qui vivent dans notre tractus digestif, en fait, et principalement au niveau des intestins, ça représente plus de 100 milliards de bactéries, et ça représente quasiment 2 kilos sur un individu. Et donc, 80% de notre système immunitaire réside autour de ce microbiote. C'est ça qui régule, en fait, toute notre santé. Ça désagrège les toxines, ça fabrique des vitamines, mais ça permet aussi d'assimiler les nutriments. Ça influence notre poids, ça influence les allergies, c'est vraiment là que tout se passe. Et d'ailleurs, c'est aussi unique à un individu que son empreinte digitale. Et donc, je trouvais ça fascinant et je trouve que c'est quelque chose d'universel. On a tous besoin de prendre soin de ce microbiote et en même temps, on n'a pas toujours accès aux suppléments qui sont souvent soit enroulés dans des pilules qui sont faites à base de plastique, soit sont des tubes en plastique, soit sont des couvercles en plastique. Enfin, je crois qu'il y a toujours... Je me disais, mais en fait, tout est dans la nature, tout est déjà là. Comment on peut utiliser ce qui est déjà là pour nourrir notre microbiote? Et en fait, il y a un remède traditionnel chinois qui est donc le kombucha, qui est un thé fermenté et donc qui fermente par la fermentation qui a toutes ces bactéries. Et donc nous, on prend ça, on rajoute des probiotiques et on en fait donc un sachet qui a le goût, comme tu disais, en tout cas de quelque chose d'agréable, j'espère, qui a le goût d'un thé glacé, mais qui en fait voilà nourrit ton microbiote chaque jour.
Vous êtes allé chercher les plantes là-bas ou vous avez trouvé un fournisseur? Comment tu as fait un peu concrètement?
Alors, ça a été toute une aventure parce qu'évidemment, on avait en fait un certain cahier des charges en termes de d'éco-responsabilité. Donc, en fait, on a trouvé dans les montagnes de Taïwan un producteur qui, en fait, donc, qui est accolé à une plantation de thé. Donc, on prend nos plantations, on prend notre thé, on le fermente, on stoppe la fermentation avec du apple cider vinegar. Ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de développement d'alcool. Pour encore une fois, notre marché est les Émirats Arabes Unis, donc c'est important de mentionner qu'il n'y a pas d'alcool. Et ensuite, en fait, on rajoute des probiotiques qui, en fait, vont se réactiver, sont comme dormants et vont se réactiver par les enzymes de l'intestin quand le produit sera sous forme liquide et bu par le consommateur. Donc, c'est un peu le processus de fabrication. Et en fait, le thé, dû à la fermentation, en fait, forme une sorte de particule qui, en fait, s'appelle un SCOBY. Et en fait, ce SCOBY est remis en fait sous forme d'engrais dans les plantations de thé. Donc, ça donne en fait un goût très particulier aux feuilles de thé qu'on utilise. Et pour parfumer notre produit final, on prend également des pamplemousses qui viennent en fait, alors je vais dire Israël-Palestine pour ne pas avoir un sujet politique. Et en fait, on prend des pamplemousses qui en fait sont ce qu'on appelle, font partie des lost resources, c'est-à-dire des fruits moches qui ont une valeur nutritionnelle qui est égale aux fruits jolis, mais en fait qui ont ne partent pas de la ferme. Et en fait, on les prend, comme nous, on les veut sous forme de poudre. À partir du moment où leurs valeurs nutritionnelles sont en lien avec ce qui rentre dans notre cahier des charges, on les prend, on les transforme en fait en poudre. Et donc, on rajoute cette poudre de pamplemousse qui donne un aspect donc acidulé, sucré au produit. Et voilà, et on a notre kombucha. C'était très, 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 très dur de trouver, en fait, un fabricant qui... Parce qu'en fait, on développe... L'une de mes premières employées était une nutritionniste qui a un background en food science. Et ça a été très, très, très dur d'avoir, en fait, notre formule et nos produits et de trouver, en fait, un partenaire pour les fabriquer de la façon dont on voulait.
Oui, j'imagine. Et donc, au final, je dis kombucha parce que j'ai bien compris que tu avais d'autres choses dedans, mais tu peux dire c'est quoi les avantages de ce kombucha pour nous? C'est un avantage sur la peau, sur quoi? Sur les rides? Je ne sais pas.
Alors, en fait, comme je disais, ça nourrit vraiment ce microbiome. En fait, il y a plus de 200 millions de neurones dans notre estomac. Donc, ça peut de faire en sorte que ce microbiote est bien nourri. En fait, ça influence nos comportements. Donc, en fait, tu sais, parfois, on a les idées un peu embrouillées après... Quand on se sent un peu blottide, quand on se sent un peu barbouillé, on n'a pas forcément les idées claires. Donc, en fait, c'est un lien mind-body. Donc, le premier effet qu'on va voir, c'est vraiment, on va se sentir plus léger, avec, en fait, une digestion qui est plus fluide. Mais, en fait, ça va influencer aussi le système immunitaire de façon générale, et donc la peau, et donc, je dirais, les idées un petit peu plus claires et se sentir un peu plus énergique. Donc ça, c'est au bout de 10 jours. On recommande une cure de 10 jours avec prise le matin ou en début d'après-midi parce que c'est quand même une base de thé noir. Donc, il y a un petit peu de caféine dans nos produits pour vraiment sentir la différence. C'est 10 jours de cure. On recommande évidemment un mois, mais une bonne façon de commencer pour prendre en charge son microbiote, c'est une cure de 10 jours.
Tu le considères comme si c'était un espèce de traitement, ou est-ce que après ça peut être genre ta boisson qui t'accompagne un peu tout le temps?
Alors, c'est pas un traitement dans le sens où on n'est pas une marque de supplément alimentaire et on veut être en fait quelque chose que les gens ont plaisir à prendre. En fait, moi j'ai aucun plaisir à prendre mes suppléments en gélule et ce qui fait qu'en fait je les oublie un jour sur trois. Et voilà, par contre, ce que j'oublie jamais, c'est mon matcha latte le matin et c'est mon kombucha en milieu de matinée. Parce qu'en fait, ça me fait plaisir, ça me fait une pause, j'apprécie de boire. Parfois, je le mets juste dans ma bouteille et je le dilue avec beaucoup, beaucoup d'eau. Et en fait, ça me force à boire de l'eau et ça me donne en fait un aspect d'eau parfumée. Et en fait, j'ai plaisir à le boire et je ne pense pas que je fais quelque chose. Je ne me dis pas, oh là là, il faut que je prenne mon médicament. En fait, c'est plus quelque chose qui fait partie de ma vie. Donc, en fait, on se positionne vraiment sur du lifestyle, sur du plaisir. On fait même des mocktails avec notre kombucha. Donc, c'est vraiment le positioning, c'est pas un supplément, c'est vraiment en fait quelque chose que tu ajoutes dans ta vie comme un petit plaisir qui, pour le coup, a vraiment des bienfaits pour la santé.
En tout cas, moi, je l'utilise, mais vraiment en bouteille. Tu sais, on nous dit qu'il faut boire plus d'un litre par jour, etc. Moi, j'ai ma grosse gourde et je mets le cible dedans. Et en fait, ça me fait ma journée. Et c'est, enfin, limite, j'en ai besoin, quoi, au bout d'un moment.
J'adore, mais tu es la meilleure. mes meilleures ambassadrices. Non, mais c'est exactement, enfin, je le consomme de la même façon. Et en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on te dit surtout à Dubaï de boire beaucoup d'eau. Et c'est dur, je trouve, de boire parfois 2 à 3. Et je pense aussi, tu sais, bon, dans la vie d'une femme, quand on est enceinte, etc., il faut boire encore plus d'eau. Et moi, j'ai vachement de mal avec les nausées, etc., à boire autant d'eau quand je suis enceinte. Et c'est vrai que c'est un produit qui m'a vachement aidée, surtout quand on est avec les hormones, etc., ballonnée, un peu pas forcément hyper à l'aise. C'est un produit qui m'a beaucoup aidée pendant toute cette période de grossesse, allaitement. Ouais.
Tu ne travailles pas toute seule, tu as un binôme. Quel rôle vous avez ?
Alors, une cofondatrice qui s'appelle Lia, qui elle en fait a un background très marketing, donc elle était brand manager pour Karim, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, Dubaï est l'une des unicorns du Moyen-Orient. Elle faisait partie de l'équipe de Karim en marketing et brand. Et ensuite, elle a bossé pour une boîte qui s'appelle Baraka, qui est une start-up. Elle était l'une des premières employées. Et c'est devenu, maintenant, Baraka est évalué à 100 millions de dollars. Donc voilà, son background est très, en fait, start-up. Marketing, growth marketing, c'est ça sa force. Donc elle est notre CMO. Et moi, je suis donc le CEO. Donc je m'occupe principalement de la gestion financière. Je dois t'avouer, une start-up, c'est toujours en fait le cash flow, le nerf de la guerre. Donc, gestion quotidienne du cash flow, levée d'argent, et puis j'irai vision globale sur la stratégie et le lancement de nouveaux produits, en fait.
Cet été, parce que je t'ai suivi sur les réseaux, tu as été présenté ta marque au festival de Glastonbury. Tu participes à d'autres événements aussi sur place. C'est quoi votre stratégie pour vous développer et vous visez quel pays? Puisque justement, la fois, tu as été en Angleterre.
Alors en fait, on est établi à Dubaï et à Londres. On a fait partie d'un programme d'incubation à Londres qui s'appelle Unrest World, qui en fait prend des participations dans des startups qui ont une mission justement éco-responsable et donc ensuite qui les aident dans leur développement. Donc on a eu la chance de participer à ce programme et on est toujours affilié avec eux. Donc ça c'était génial. Donc à Londres, on a fait effectivement Glastonbury qui était évidemment le highlight de cette année. C'est un gros festival. Boisson justement été apprécié le lendemain, tu vois, de nuit un peu agitée et de concerts qui se finissent très très tard. Je pense qu'on a sauvé quelques vies en toute honnêteté les lendemains. Donc ça c'était chouette. On a fait beaucoup d'événements à Londres, on a fait des pop-up, on a eu un pop-up à Regent Street, on a eu un pop-up à Notting Hill. Donc notre stratégie a été vraiment de tester le produit pendant très longtemps. Tu sais, je travaille sur ce produit depuis quasiment 3 ans. On a eu quasiment 2 ans de tests, différentes recettes qu'on allait tester donc dans différents pop-up stores, etc., etc. Donc ça a été vraiment notre stratégie pour avoir un produit qui vraiment soit pas juste ce que moi j'aime et ce que 5 de mes copines aiment, mais vraiment en fait d'aller voir au contact de centaines de personnes quel était leur feedback, de quoi ils avaient envie. Donc les événements, on les a beaucoup utilisés pour se faire connaître, mais aussi pour développer un produit qui plaisait vraiment à notre audience. Donc on continue à faire ce genre d'événements. On fait évidemment tout ce qui est gym. Donc on a à Londres, on a fait des événements avec Barry's, avec F45, avec Cycle. À Dubaï, on fait aussi beaucoup d'événements. Donc on fait pareil, les mêmes marques, Barry's, F45. On essaye de faire aussi beaucoup plus autour de la beauté. Tout vient de l'intérieur, tu sais. Donc comme le microbiote a un vrai impact sur la peau, on essaye vraiment aussi de faire des événements autour de la beauté. Maintenant, en termes de développement commercial, on a 3 stratégies. On est sur notre site internet, on a des partenaires, que ce soit en ligne, Kipson, White Rose, Amazon, et ensuite on a tout ce qui est B2B2C, donc compagnie aérienne et hôtel.
Je trouve ça hyper intéressant puis de voir comment vous avez réfléchi à tout ce lancement progressif, je dirais, à cette confrontation aux clients. Et après d'avoir dit, ben voilà, on va toucher avec le site internet, avec le B2B, B2C et les partenaires. Donc, non, très chouette. Je sais que maintenant, tu es en pleine levée de fonds. Pourquoi et comment tu réalises cette levée? Pourquoi vous avez voulu le faire?
Dans mon projet précédent, j'étais ce qu'on appelle self-funded. Donc, j'avais financé moi-même le projet d'Anka. Jusqu'au moment où, en fait, au bout d'un moment, la croissance organique, en fait, prend du temps, surtout sur des marchés qui sont relativement petits. Encore une fois, en fait, quand tu fais partie du Y Combinator aux US, que tu as une direct to consumer, une brand D2C direct to consumer, on te dit, tu ne dépenses pas d'argent en marketing jusqu'à temps d'avoir 1 million de revenus. Quand tu as 1 million de revenus de dollars dans une compagnie, dans une start-up à Dubaï, ça fait pas 6 mois que tu as lancé, tu es en général déjà bien établi. Donc en fait, j'avais plus envie de prendre, je dirais, les escaliers et de me dire, OK, je vais créer ma boîte et ça va prendre 5 ans et ça va être long et je vais réinvestir chaque argent que je gagne, etc., etc. Je me suis dit, non, là, j'ai un projet qui a du potentiel à l'international, qui peut en fait être exporté par la nature de nos produits. Une fois, en fait, nos sachets utilisent du plastique, mais en fait, le plastique qu'on utilise, le carbone qu'on utilise est 1% de ce qu'une bouteille d'eau ou de ce que le transport d'un liquide, en fait, peut coûter. Donc, on a vraiment cette ouverture, en fait, au monde en termes de facilité de transport et en termes aussi de déco-responsabilité. On a un produit qui peut le faire, je dirais. Donc voilà, je me suis dit, on tente le projet avec, en fait, des investisseurs. Donc, notre premier round de funding, ça a été des investisseurs avec lesquels j'ai déjà travaillé. Parce qu'on a des business angels, je dirais, qui font partie de notre réseau personnel. C'est comme ça qu'on a levé. Et là, en fait, je cherche, je fais, donc ça, c'était mon pré-seed. Donc, c'était ce que j'ai levé l'année dernière. Et là, en fait, on cherche à lever 1 million de dollars avec des compagnies déjà plus établies. Donc, soit des CVC, donc des compagnies qui ont déjà, par exemple, des grands groupes, donc Kellogg's, Nestlé, Danone, etc. Ils ont tous, en fait, un bras start-up dans lesquels ils investissent. Donc, on cherche soit un CVC comme ça ou un VC qui soit spécialisé dans notre industrie. En fait, on veut, je dirais, de l'argent qui soit institutionnalisé dans le sens où on pourra bénéficier en fait d'une expertise et d'un vrai réseau de développement parce qu'ils ont déjà vu des projets ou déjà amené des projets comme le nôtre à atteindre leurs objectifs.
Et je me demandais, est-ce que le fait que vous soyez deux femmes, c'est un plus ou c'est un désavantage dans cette levée de fonds?
Vert à moitié vide ou vert à moitié plein? Moi, je suis féministe, donc j'ai du mal à dire que ça soit un inconvénient ou un désavantage d'être une femme. Maintenant, la réalité est que les startups qui sont gérées par des femmes obtiennent moins de financement. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Il y a beaucoup maintenant d'efforts pour essayer de financer davantage les female founders. Et je trouve que c'est très bien et on devrait en avoir davantage même au Moyen-Orient. Mais de toute façon, de lever de l'argent, que tu sois un homme ou une femme, c'est un projet qui est long, qui est difficile, où tu te fais rejeter tous les jours. C'est des non, non, non. Tu te prends 15 non pour un oui. Enfin voilà, si Mark Zuckerberg, je pense, lance un nouveau projet demain, si tu veux, je pense qu'il n'aura pas de problème pour trouver des VCs qui vont le backer. Mais même en ayant eu, même en ayant créé des projets qui étaient profitables par le passé et en ayant, je dirais, un track record qui soit quand même assez sain et assez successful sur papier en termes de résultats financiers, ça reste en fait un processus qui est long, surtout en fait, je dirais, dans mon industrie, parce qu'en fait, les gens veulent voir, les investisseurs veulent voir un produit et un produit avec de l'attraction. Le problème, c'est que pour avoir de l'attraction, il faut du financement. Donc voilà, on en est là.
Il y a pas mal de produits sur le marché, je dirais, healthy, hein, je fais un peu la mauvaise langue, hein, mais c'est fait exprès. Comment vous allez vous différencier? Enfin, tu vois, c'est votre discours pour vous dire, bon, nous, on se démarque de tout ce qu'il y a déjà et donc venez plus consommer chez nous.
Effectivement, il y a différents produits. Il y a des kombucha, mais souvent sous forme liquide. Il y a des poudres, mais souvent sous des formes de grandes poudres. En fait, c'est pas un produit par lui-même. Il faut faire un smoothie chez toi. Donc, il faut acheter, je sais pas moi, un pack de super poudre green qui sent le spirulina, mais tu peux pas le manger comme ça. Donc, il faut faire un smoothie avec des bananes congelées, etc., etc. Bon, ça devient quand même tout un process. Donc, nous, le premier point, c'est qu'on est, tu rajoutes juste de l'eau. En fait, tu prends ton sachet, tu le mets dans ta bouteille. Tu n'as pas besoin d'avoir de préparation, de nettoyage. C'est un produit en lui-même que tu peux emmener partout. Deuxièmement, on a 0,3 g de sucre qui sont en fait des sucres qui sont naturally occurring, donc qui viennent en fait de la fermentation et qui viennent des fruits qu'on utilise. Donc ça, c'est le deuxième point. La plupart des boissons qui sont fonctionnelles ont au moins 20 g de sucre par bouteille. Troisièmement, le goût. On a encore une fois travaillé pendant des mois sur la formulation du goût pour avoir en fait quelque chose qui touche justement une audience qui n'est pas forcément habituée à boire des jus verts qui sont amers, qui sont un peu difficiles en fait pour une audience novice. Donc en fait, on voulait vraiment faire quelque chose autour du plaisir de boire quelque chose de sympa et qui peut même en fait encore une fois être un mocktail ou même être incorporé dans un cocktail. Voilà, c'était vraiment le goût était vraiment le troisième point très important. Quatrième, l'éco-responsabilité, d'essayer de produire le plus responsable, comment dire, the most responsibly possible, d'avoir cette conscience de pouvoir utiliser des ressources possibles. On a fait énormément de travail sur le packaging aussi. On voulait être complètement compostable, mais là, le produit, en fait, était... la qualité du produit n'était pas garantie, donc on a dû faire des concessions. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est et qui sera toujours au cœur de notre projet. Donc, c'est pas parce que... on est toujours en innovation, en fait, de ce côté-là. Et on en parle aussi sur notre compte Instagram de tous les déboires qu'on peut avoir en essayant de trouver des solutions qui soient plus eco-friendly. Et finalement, le fait qu'on a un produit qui est, comme je le disais, qui est transportable dans le monde entier, qui a une shelf life assez longue, ça, d'un point de vue business, en fait, c'est vraiment là où on peut gagner des parts de marché. Donc, voilà nos 5 points en how do we win?
Dis-moi, est-ce que vous allez à un moment vous dire compléter ce produit, avoir une gamme un peu plus large?
Oui, absolument. En fait, comme je disais, la vision de CIP, c'est vraiment en fait, de pouvoir avoir différents produits qu'on rajoute dans l'eau, dépendamment de qui tu es. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir une personnalisation. Donc, toi, Adeline, tu vas sur le site internet, tu me dis, écoute, voilà, moi, je rentre de vacances, je suis un peu jet lag, machin, rentrée des enfants, il faut que je me remette dedans, je me remets au sport. OK, donc, je te fais en fait un petit programme de tout ce que tu as besoin d'ajouter dans ton eau, le matin, le soir, en milieu de journée, pour te sentir bien pendant un mois. Et ça, ça sera différent d'un mec qui prépare un ultra-marathon ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, on voudrait vraiment avoir cette personnalisation. Pour ça, il faut qu'on ait différentes gammes de produits. Donc, on a deux de saveurs dans le kombucha qui arrive, j'espère, fin octobre. Je croise les doigts pour que tout se passe comme prévu. Et ensuite, on a différentes autres fonctions. Donc, une fonction, donc ça sera toujours autour de l'hydratation, comme tu l'as compris, ça sera toujours le même format. Et donc, ça sera plutôt hydratation et vitamines. Donc, tout ce que tu as besoin en daily basis. On a aussi tout ce qui est autour des hormones féminines, donc pour garder les hormones en balance. Donc, voilà, on a plusieurs pôles, le sommeil, on a plusieurs pôles, en fait, on a identifié plusieurs pôles sur lesquels, en fait, on pourra développer une gamme de produits. Donc, on va, en fait, en horizontal, différents pôles, et on va aussi en vertical en donnant différents types de saveurs pour les consommateurs.
J'adore. Vivement que je puisse faire ma petite personnalisation. Et tout ça, mesdames et messieurs, elle est aussi maman et sportive, donc je ne sais pas comment tu trouves le temps.
Je vais envoyer ce podcast à mes copines, donc je vais leur dire, voilà les filles, pourquoi je n'arrive jamais à sortir, boire un verre, à prendre un café.
Elles vont te pardonner. Qu'est-ce qui est pour toi le plus gratifiant dans la création et la croissance de ton entreprise?
Simplement que tu me dises que tu es du tout les testipes et que tu adores et que ça t'apporte quelque chose, que tu consommes plus d'eau, que tu vois les effets au quotidien sur t'es moins blottie ou tu te sens mieux ou ta peau est mieux. C'est ça en fait. Ce pourquoi les entrepreneurs font quelque chose, c'est parce qu'ils croient en ce produit, c'est parce qu'eux-mêmes consomment ce produit en daily basis et se disent mais ce truc est génial, j'ai envie que les gens puissent en profiter. Et en fait, moi, c'est ça, il n'y a pas de gratification autre que de me dire d'avoir des gens qui commentent sur mon site internet qui me disent mais attends c'est génial, moi j'ai fait ça pendant 3 mois, franchement mon acné va vachement mieux et je me sens mieux, et c'était un petit geste complètement anodin et en fait ça a eu un impact sur mon quotidien. Donc c'est vraiment moi là où je trouve du plaisir et de la gratification.
Toi qui as voyagé dans donc, plusieurs pays, est-ce que tu trouves que la femme entrepreneuse, elle a de plus en plus sa place ou il y a encore un peu de chemin à faire?
Alors, je vais te dire, en fait, je trouve qu'il y a différents types d'entrepreneuriat féminin. Alors, je vais être un petit peu peut-être polémique sur ce sujet-là, mais je trouve qu'il n'y a encore pas assez de modèles et de rôles dans l'entrepreneuriat féminin. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de catégories, si tu veux. Donc, tu as tout ce qui est... Enfin, je ne sais pas si c'est beaucoup trop de catégories, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément autant de modèles qu'il devrait y avoir. Donc, tu as tout ce qui est, en fait, modèle des années 90, où tu étais une femme entrepreneur, mais en fait, il ne fallait surtout pas dire que tu étais une femme, il fallait booster à fond le côté « je suis un mec, j'y vais à donf, donc tu ne vois jamais tes gosses, et tu es à fond dedans, et tu inhibis, enfin, tu essaies de cacher vraiment tout ce qui est une partie de ta féminité pour justement jouer dans la cour des mecs. » Et donc ça, c'est un modèle dans lequel, par exemple, je ne me retrouve pas. Et ensuite, tu as tout ce qui est le modèle de mempreneur. Et encore une fois, je trouve ça très bien d'avoir un projet de mempreneur, mais tu as tout de suite l'idée de c'est un boulot part-time. En fait, je vais quand même chercher mes enfants à l'école et je bosse de la maison et je suis solo entrepreneur. Ce qui est très chouette, mais en fait, ces deux, par exemple, moi, dans ces deux modèles-là, je ne me retrouve pas. Donc, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'espace pour des femmes qui, en fait, ont levé de l'argent, qui ont une équipe, qui ont un bureau, qui ont, en fait, des frais, qui ont le stress de chaque mois de payer les salaires, qui ont le stress de recruter les bonnes personnes, qui ont des stress de potentiel legal, des stress qui sont très business, en fait, qui ne sont pas forcément liés à la création, qui ne sont pas forcément super glamour sur Instagram, mais qui font la réalité, en fait, de ce qu'est l'entrepreneuriat. Donc, je trouve qu'il y a encore évidemment de la place pour toutes sortes d'entrepreneurs, mais il y a encore plus de place, je trouve, pour des rôles de femmes et de modèles pour les générations, pour des jeunes femmes qui ont 10-15 ans de moins que nous. C'est possible d'avoir une famille, d'être quand même une femme, de trouver ton équilibre d'une façon ou d'une autre et d'avoir en fait des vraies problématiques de boulot sur un business qui a levé de l'argent ou qui a vraiment en fait des investisseurs et des comptes à rendre sur ce projet-là.
Et ça tu le vois dans tous les pays, ça. Il n'y a pas un pays qui est plus en avant ou en arrière que ça.
Après, tu trouves que, par exemple, moi, du coup, j'ai passé pas mal de temps à Londres cette dernière année et tu vois qu'il y a beaucoup de soutien quand même pour les femmes entrepreneurs. Il y a beaucoup de fonds qui spécialisent dans les femmes entrepreneurs. Donc, il y a des networks de femmes entrepreneurs qui sont, on se dirait, beaucoup plus établies et beaucoup plus avec des actions beaucoup plus concrètes que ce que j'ai pu voir, par exemple, à Dubaï. Je trouve, encore une fois, je me retrouve dans aucun type de networking féminin, tu vois, parce que c'est vraiment, comme je disais, c'est hyper polarisant. D'un côté, tu as les mompreneurs et de l'autre côté, tu as les meufs des années 90, tu vois, qui sont... c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Et donc, je trouve qu'à Londres, ou même aux États-Unis, j'ai pu trouver des réseaux qui travaillent en fait sur des problématiques très concrètes de comment tu nettoies ta cap table, comment tu ton deck, comment c'est fait ton fundraising, ton pitch, tes problèmes HR, donc c'est des actions très concrètes qui permettent de soutenir les femmes de façon plus concrète qu'un café au DIFC, tu vois.
C'est peut-être lié aussi à la culture du pays, quoi. Je me disais par rapport ici aux UAE, tu vois, on n'a pas encore la culture de la femme entrepreneur aux UAE, elle n'est pas encore aussi avancée, je pense, que ce qu'il pourrait y avoir aux US.
Ou peut-être c'est avancé, mais c'est plus petit, donc ça se voit moins. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup à faire et il y a plein de réseaux. Et j'essaie de participer, je trouve qu'il y a plein de réseaux qui essayent de faire plein de choses, mais ça manque encore d'actions très concrètes, je trouve, sur des actions plus concrètes sur des problématiques très opérationnelles que des femmes qui ont un projet avec une équipe qu'elles font face tous les jours, tu vois.
Est-ce que tu as une anecdote inspirante ou est-ce que tu as un souvenir d'un moment clé de la création ou du lancement de ta marque?
Alors écoute, il y en a des anecdotes, il y en a des marrantes, il y en a des moins marrantes, il y en a des stressantes. J'ai eu un investisseur qui m'a, tu sais, comme quand on ghost sur de dating, tu vois, qui me dit je te donne 100 000 dollars et qui en fait me ghost et disparaît et au moment de payer en fait a juste disparu et en fait je l'ai jamais revu, il m'a jamais répondu, je l'ai jamais entendu parler. Deuxième anecdote, je dirais, que je veux mentionner, c'est, tu sais, j'ai cru que tout était fini l'année dernière. Quand on a 80 000 sachets ont été produits et ils étaient, la poudre, en fait, était toute cristallisée à l'intérieur. Une semaine avant le lancement, on a dû tout ramener à la factory. Et là, j'ai dû me battre, mais comme une acharnée, pour en fait faire reconnaître que c'était un défaut de fabrication et récupérer tout l'argent, parce qu'en fait, on avait engagé quasiment tout le cash flow qu'on avait pour faire cette production. Et là, j'ai vraiment cru que tout était fini. Mais finalement, voilà, tu rebondis. Donc, ça a vraiment testé, je dirais, ma résilience, cet événement-là. Mais c'était un événement clé dans la formation du projet. Et le dernier événement que je veux mentionner, parce que encore une fois, si j'ai un message de ma petite expérience que je peux partager, c'est vraiment la résilience. Je rencontre plein d'entrepreneurs qui me disent « mais là, j'en peux plus et tout », mais je comprends, tu sais, il y a des moments où tu as l'impression que tu vas tout conquérir et il y a vraiment des moments qui sont durs et c'est la résilience, c'est vraiment ça le nerf de la guerre, je pense. Et tu sais, en début d'année, ma fille est décédée à la naissance, donc c'était un événement, évidemment, un cauchemar, c'était très très dur avec un postpartum très 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 dur. Mais le lendemain donc, des obsèques de ma fille, j'avais un pitch qui était prévu évidemment depuis des semaines. Et là, je me suis dit, bah, en fait, tu as le choix. Je souffre pas de dépression. Je suis pas mentalement malade, tu vois. Donc, je me dis, bah, là, tu as le choix. Soit tu as la meilleure excuse pour tout abandonner ce projet et te dire, bah, ça fait 3 ans que je bosse dessus et ça va pas marcher et je laisse tomber, shipment, c'est pas grave, on trouvera une solution. Ou alors tu t'accroches. Et en fait, c'était l'appel avec l'investisseur le plus simple du monde. En 30 minutes, je le connaissais, c'était la première fois que je le rencontrais. En 30 minutes, il me fait un chèque de 20 000 $. Et donc là, je dis, bon, bah, merci, au revoir, tout va bien, etc. Et là, je raccroche. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça m'a tellement reboostée et ça m'a tellement donné le courage de continuer. Et j'ai toujours cru que c'était un signe, tu vois, de ma fille, de me dire, mais non, mais continue à faire quelque chose qui te plaît. Il y a des moments durs, mais poursuis parce que c'est une aventure qui te définit et qui en vaut la peine.
Donc, si de tout ça, un conseil que tu donnerais à celles qui veulent se lancer dans n'importe quel domaine?
Eh bien, c'est d'y croire vraiment, en fait, d'y croire profondément, dans le sens où si c'est quelque chose que toi-même tu consommes ou toi-même tu utilises chaque jour, c'est là, moi, où je vois le point de résilience. Si c'est quelque chose auquel tu crois vraiment au plus profond de toi, tu trouveras la résilience de continuer malgré tout. Si c'est en fait un projet que tu dis, ah oui, ça va plaire à cette catégorie d'audience, mais sans vraiment connaître, sans vraiment comprendre profondément le besoin de marché, alors c'est juste une idée et c'est chouette. Il y a plein d'idées et ça vaut le coup de l'explorer, mais ça ne vaudra peut-être pas le coup de mettre toute ton énergie et de trouver les ressources pour continuer à mettre toute l'énergie sur le long terme.
Et enfin, pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais 3 mots pour décrire The Musette?
Alors, je dirais lien, bienveillance et ambition.
Merci beaucoup, Justine, pour ce temps partagé avec nous. Alors, je te trouve hyper investie, hyper... Enfin, voilà, tu as vraiment bossé ton sujet. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est autant le pitch, mais je veux dire, toute la recherche, je dirais presque médicale, on va dire, que tu as faite sur ton produit, et d'avoir été hyper transparente et sans tabou. Donc, bravo à ce lancement, bravo à votre équipe, et bonne continuation à SIP, surtout.
Eh bien, merci beaucoup et encore un plaisir d'être sur les Musettes. J'adore ce que tu fais et j'ai hâte d'être à notre prochaine réunion.
Merci, à très vite Justine.
À très bientôt Adeline, salut.
Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneurs.